Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Les votes se poursuivent ce jeudi 21 décembre dans les bureaux qui n'ont pas ouvert hier mercredi. Pendant que dans d'autres, le dépouillement des bulletins a commencé et les résultats sont même affichés dans certains centres conformément à la loi électorale. Cependant, dans d'autres coins du pays comme par exemple à Lubero et dans certains bureaux de vote de Walikale au nord Kivu et dans beaucoup de centres de vote du territoire de Kasongolunda au Kwango ainsi que dans certaines localités du Sankuru, les bureaux de vote restent fermés faute du matériel électoral. Quel tir faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons en ligne M. Joseph Senda, il est directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Bonsoir M. Joseph Senda.
Bonsoir M. Guy.
Et en ligne aussi M. Cyril Ebotoko, je ne sais pas s'il est déjà là, il n'est pas encore arrivé. Et on n'est pas encore arrivé à les joindre. Et ici au studio, nous avons Maître Francis Biaswa Mwanza. Il est analyste au sein de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL en sigle. Bonsoir Maître Francis Biaswa Mwanza.
Bonsoir Monsieur Gilles.
Et aussi en ligne, Alain Joseph Lomanja, analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Bonsoir Alain Joseph Lomanja.
Bonsoir Monsieur Guimaté, bonsoir à tous les auditeurs ainsi qu'aux autres invités.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, les votes se poursuivent ce jeudi 21 décembre dans les bureaux qui n'ont pas ouvert hier. Nous allons donc voir la situation générale à travers les pays avec vous René Capita.
Après une journée de vote marquée par plusieurs incidents hier mercredi 20 décembre, mais également de longues heures d'attente avant l'ouverture des centres de vote dans pratiquement toutes les provinces, retard dû au déploiement tardif des kits électoraux, les opérations de vote se sont poursuivies jusque tard dans la soirée et dans certains endroits jusque ce jeudi dans la matinée. Le dysfonctionnement des machines à voter, des difficultés pour les électeurs de retrouver leur nom sur les listes électorales ou encore la non-maîtrise par ces derniers de la procédure de vote électronique ont fait que dans la plupart des centres de vote, les opérations de vote se sont prolongées au-delà de 11 heures prévues par la loi. Dans les territoires tels Kabambare dans le Maniema, Manono dans le Tanganyika ou encore dans la ville de Kinshasa, certains centres de vote n'ont pu ouvrir que ce matin comme l'a autorisé la Commission électorale nationale indépendante, alors que d'autres comme à Kasongolunda dans le Kwango où les kits électoraux n'avaient pas encore été déployés jusque dans la mi-journée ce jeudi, les populations attendaient encore d'exercer leur devoir citoyen. Notons toutefois que partout où les opérations se sont déroulées sans incident majeur, le dépouillement des résultats a démarré hier soir ou encore ce matin. Le cas de plusieurs centres à Kinshasa ou dans les territoires de Mahagi ou Kassigny dans l'Ituri, dans plusieurs autres territoires, mais également en France, Belgique ou aux États-Unis, où les résultats ont commencé à être affichés depuis hier soir.
Merci René Capita pour ces reportages. Joseph Senda, directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante CENI. D'abord, comment vous réagissez à ces reportages de notre collègue René Capita, n'est-ce pas, qui vient de nous présenter la situation générale à travers tous les territoires nationaux?
Nous lui disons grandement merci pour nous avoir présenté l'aperçu du déroulement des opérations à travers le pays. Nous lui disons merci et nous lui sommes reconnaissants.
Alors, on n'est pas encore à la fin des opérations de vote parce que ça se poursuit dans certains bureaux de vote. Mais est-ce que à ce stade, vous de la CENI, vous pouvez déjà dresser un bilan à mi-parcours du déroulement, n'est-ce pas, des élections qui ont débuté hier mercredi 20 décembre à travers tous les pays?
Nous avons déployé un certain nombre, enfin nous avons accrédité pour être précis. Enfin, avant cela, j'en profite pour dire bonsoir à tous ceux qui sont avec nous, les co-débatteurs ainsi que les électeurs, qui veulent m'excuser que je n'ai pas pensé à ça, je crois qu'il n'est pas trop tard. Alors, je voulais dire que la CENI avait accrédité un certain nombre de missions d'observation qui se sont déployées sur terrain. Nous attendons impatiemment le rapport de mission, parce qu'en fait, ces missions ont été déployées justement pour nous accompagner dans le déroulement de processus. Ça, c'est un des deux comme cela est de coutume chez nous, nous allons procéder à un atelier d'évaluation pour nous faire une idée d'ensemble de la façon dont les scrutins se sont déroulés à travers le pays. Donc, nous attendons impatiemment les différentes missions d'observation qui vont nous faire des rapports et nous, à notre niveau, nous allons devoir procéder à un atelier d'évaluation et au terme de ça, nous aurons plus ou moins une idée de ce qui s'est réellement passé. Pour le moment, ça peut être peut-être des supputations tout simplement. Donc on ne peut pas dire beaucoup de choses à ce stade.
Alors s'il faut s'en tenir à ces reportages de notre collègue René Capita, où il est relevé, n'est-ce pas, les dysfonctionnements des machines à voter, des difficultés pour les électeurs de retrouver leur nom sur les listes électorales, ou encore la non-maîtrise par ces derniers de la procédure des votes électroniques, pas des machines jusque-là dans certains centres de vote au moment où nous parlons. Et Monsieur Senda, la CENI n'a pas vu venir cette situation?
Écoutez, je crois que nous avons été ensemble tout le long du préparatif de ce processus. Il est vrai que nous avions des problèmes de déploiement, c'est-à-dire le fait que, tous les problèmes liés à la logistique. Et donc, nous étions tout à fait optimistes qu'au moment opportun, les choses se dérouleraient comme nous l'avons souhaité et comme nous l'avons prévu. Et maintenant, il y a eu des poches à gauche, à droite, par-ci, par-là. À ce stade, l'erreur serait de présenter les choses sous l'angle que nous pourrions appeler négatif, au point de tout noyer. C'est pour cela que nous voulons dire que, pour nous, le plus important à ce stade, c'est d'abord les missions d'observation qui sont sur terrain, qui sont nos partenaires, qui vont nous faire leur rapport de manière tout à fait objective. Nous leur faisons pleinement confiance. Au même moment, nous aussi, en interne, nous allons procéder à un atelier d'évaluation et nous croiserons les résultats et ça nous permettra d'avancer. Donc, le 20 et le 21 sont déjà passés. Aujourd'hui, nous pensons à la compilation, nous pensons à la publication des résultats provisoires, nous pensons éventuellement à être contentieux et enfin à la publication des résultats définitifs. C'est ce qui nous préoccupe pour le moment.
Voilà, problème de déploiement des matériels liés, n'est-ce pas, à la logistique, c'est des problèmes que vous connaissiez déjà. Mais comment vous expliquez que la CENI a sollicité l'appui des partenaires, notamment la CENI, les pays limitrophes, seulement à quelques semaines de cette élection? Pourquoi la CENI n'a pas sollicité cette assistance bien avant?
Ce sont des éléments qui feront l'objet des réflexions pendant l'atelier d'évaluation. Je ne peux pas dire plus que ça. Pendant l'atelier, tous ces éléments-là feront l'objet de nos réflexions.
Alors, conformément à la loi, certains bureaux de vote qui ont déjà fini avec l'opération de dépouillement des bulletins sont en train d'afficher, ont déjà affiché, n'est-ce pas, les résultats. Et on sait comment les choses se passent. Est-ce que la CENI ne craint pas, en fait, la préoccupation, c'est comment la CENI va gérer cette situation pour que l'on ne puisse pas commencer déjà à avoir, à travers certains médias, n'est-ce pas, les premières tendances qui pourraient avoir des conséquences, n'est-ce pas, sur la publication des résultats finaux?
Bon. De toute façon, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, nous sommes dans un État qui se veut État de droit, c'est-à-dire qu'un État où priorité est donnée à la loi. Nous savons très bien que, jusqu'à vie contraire, la CENI est le pouvoir organisateur des élections de par la loi. La CENI est la seule institution habilitée à donner les résultats provisoires. En dehors de ça, c'est de l'anarchie. Ça demandera la discipline de chacun d'entre nous. Ça demandera la conscience de chacun d'entre nous par rapport à ce que nous voulons, quoi. Je ne pense pas que un jour, on prendra en considération les résultats qui seront proclamés ou publiés par une autre institution que la CENI. Maintenant, si certaines personnes pensent qu'ils peuvent le faire, bon, écoutez, la République, c'est une maison commune, hein. Elle nous appartient à nous tous, le pays, c'est notre maison commune. Nous devons nous comporter conformément à la loi ou aux lois du pays. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce stade.
Alors, est-ce que la CENI est fière de la manière dont se sont déroulées ces élections? Ou se déroulent ces élections parce que ça continue?
Mais écoutez, on ne peut rien anticiper, en fait. Fière ou pas fière, nous avons eu le 20, nous avons eu le 21, les élections se sont tenues. comme pour dire, chaque enfant qui est né avec ses caractéristiques propres. Il y a eu l'enfant première édition, l'enfant deuxième édition, l'enfant troisième édition, l'enfant quatrième édition. Chaque enfant avec son histoire propre, sa ligne de vie, comme on dit. L'enfant qui vient de naître hier et aujourd'hui a ses caractéristiques. Et je crois que c'est le plus important. Pour nous, comme je l'ai dit, nous attendons impatiemment les rapports de mission d'observation qui vont certainement nous aider sur beaucoup de choses. Nous attendons impatiemment notre atelier d'évaluation. C'est au terme de ça que nous allons dire, voilà, ce qui est positif, ce qui est négatif, quelles recommandations il faut faire. À ce stade, bon, chacun parle peut-être avec son cœur, lui parle avec la tête, donc on ne peut rien faire en ce moment.
Merci, Maître Francis Biassois Mwanza. Vous êtes analyste au sein de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, la CIMOCEL en sigle. Et s'il vous est aussi, n'est-ce pas, demandé de dresser un bilan à mi-parcours de ces élections, que diriez-vous?
Merci beaucoup de la parole. Si la question va être abordée dans ce sens, il faut d'abord souligner que les élections du 20 décembre ont été précédées par un quilement, ou je peux dire une tendance d'incertitude suite à plusieurs défis qu'il faudrait relever, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes quand même arrivés au jour J. S'agissant de la température générale de ce qu'a été d'abord le premier jour des élections, nous allons préciser ici, parce que dans ce qu'on venait de dire par le directeur des opérations de la CENI, il dit que la CENI s'appuie beaucoup plus sur les rapports des missions d'observation.
Alors, vous?
Bien sûr. Alors, dans ce cadre-là, la mission d'observation, donc la synergie des missions d'observation citoyennes des élections, la CIMOCEL, avait déployé 275 observateurs de long terme sur toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire dans 26 provinces. Alors, ce déploiement a été réparti en 5 pôles, c'est-à-dire au niveau de Kinshasa, nous sommes constitués en pôles pour suivre ce qui se passe de près sur le terrain. Déjà, hier, à 11h, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections avait déjà rendu public un rapport sur la température générale des spécialement sur l'ouverture des bureaux de vote. Les constats étaient tels que, s'agissant de l'ouverture des votes, nous avons reçu les rapports des provinces que nous avons chiffrés ici.
Là, c'est l'ouverture des bureaux de vote.
L'ouverture des bureaux de vote. Nous avons reçu les rapports des provinces, spécialement pour l'ouverture, c'était 2441 rapports. Prenant en compte ces rapports, après analyse et traitement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un grand problème lors de l'ouverture des bureaux de vote, notamment la majorité des bureaux de vote qui ont réussi à ouvrir ont connu soit des difficultés des machines, bien sûr les bureaux sont ouverts, mais il y a des machines qui ne sont pas disponibles, soit ils ont ouvert, mais pas dans le temps, mais avec un retard tel que, pas en tenant compte de ce que la loi prévoit en cette matière, et suite à tous ces défis ou à tous ces problèmes, cela a suscité des réactions, notamment de la part des électeurs, de la part des agents de la CENI eux-mêmes, et ce qui a conduit à un total de 723 rapports sur les incidents. Les incidents dus à quoi? C'est dû d'abord à l'arrivée tardive de matériel, y compris l'arrivée tardive aussi des agents électoraux, à l'ouverture tardive des bureaux de vote et à l'indisponibilité du matériel. Alors, on a trouvé une situation selon laquelle les électeurs sont arrivés, mais ils ne savent pas comment voter. Alors, prenant en compte tous ces aspects, d'une manière générale, nous pouvons dire, sans toutefois conclure, parce que vous le savez très bien, que
les opérations continuent.
Les opérations continuent. Au moins s'agissant du rapport, le premier rapport a été publié depuis hier à 11h. Il était prévu aujourd'hui la publication d'un rapport préliminaire. Mais suite au contexte dans lequel nous sommes retrouvés, notamment les élections ont été prolongées, il y a eu un deuxième jour de vote, ce qui n'était pas prévu. Aujourd'hui également, à 12h, nous avons publié un deuxième rapport. Ce deuxième rapport, c'est un rapport d'étape. Ce n'est pas un rapport final, un rapport d'étape, c'est juste pour présenter la situation des opérations de vote jusqu'à ce stade. Parce qu'il faut reconnaître que les élections où le vote continue encore à être effectué dans certains centres de vote, dans certains bureaux, presque sur toute l'étendue du territoire national, il faut souligner qu'il y a des bureaux qui ont déjà fini les opérations. Il y a d'autres bureaux qui ont ouvert aujourd'hui, qui continuent encore avec les opérations. Donc on ne s'est pas donné d'une manière définitive un rapport sur l'ensemble d'opérations. Mais s'agissant de notre rapport d'étape, voilà. Nous avons fait état d'une situation, surtout en ce qui concerne les opérations de dépouillement pour les bureaux qui ont déjà
fini avec
voilà. Nous sommes rendus compte que la majorité, donc presque 97% des bureaux de vote qui ont déjà terminé avec les opérations de vote ainsi que le dépouillement ont déjà affiché, mais il se pose un problème de contradiction dans certains coins entre les résultats sortis par la machine et les résultats du comptage.
Voilà, donc il y a cette contradiction entre les résultats sortis par la machine et les résultats qui ont été constatés lors du comptage.
Oui.
Et vous avez évoqué les 723 rapports liés aux incidents.
Oui.
Peut-on conclure à ce stade qu'il s'agit des élections chaotiques, comme le disent certaines personnes, où on peut lier ça, n'est-ce pas, à la nature du travail fait par l'homme, un travail perfectible. Est-ce que on peut parler aujourd'hui d'élections bâclées, chaotiques?
C'est comme ce que j'étais en train de vous dire. D'abord, une mission d'observation, c'est une mission qui travaille pour la crédibilisation du processus électoral, et aussi les propositions à sortir de nos rapports participent à la contribution pour l'amélioration au niveau de l'organe de gestion électorale. Alors, s'agissant de la situation telle qu'elle se présente, à ce stade, il est difficile de déterminer ou de relever les indicateurs pour déterminer d'un côté si ça va ou ça ne va pas, ou ça a été bâclé ou pas. Mais nous restons objectifs et nous continuons à travailler jusqu'à ce qu'on va finir avec les opérations. Et à ce moment-là, nous aurons le courage de présenter sur la place publique ce que nous aurons constaté sur terrain et le résultat que nous avons, que nous allons retrouver et trouver en conclusion sera rendu public. Et en ce moment-là, chacun pourra en faire une analyse qu'il veut plutôt. Pourquoi? Parce que nous restons neutres. Nous sommes une mission d'observation, nous ne remplaçons pas la CENI.
Merci. Merci, Monsieur Cyril Botoko. Il est secrétaire exécutif de la Commission épiscopale Justice et Paix de la CENCO. Il est coordonnateur national de la mission d'observation électorale CENCO-SCC. Est-ce qu'il est... Non, il n'est pas encore là. On n'arrive toujours pas à le joindre. Monsieur Alain-Joseph Lomanja, analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis en ligne.
Oui, quelle est votre lecture par rapport au déroulement de ces élections hier et aujourd'hui?
Oui, je vais commencer d'abord par dire qu'il est difficile de faire une lecture globale des opérations qui sont en cours et même qu'il serait téméraire de porter un jugement à cette étape actuelle du processus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les opérations sont en cours, donc ça nécessite beaucoup de prudence dans l'appréciation des activités. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il existe plusieurs activités qui se déroulent le jour du scrutin et qui doivent être analysées attentivement avant toute prise de position globale sur les élections. Alors, parmi les activités qui se déroulent le jour du scrutin, Il y a les opérations d'aménagement et d'ouverture de bureaux de vote. Il y a les opérations de vote proprement dites. Il y a aussi les opérations de clôture et de dépouillement de scrutins. Alors, toutes ces opérations-là sont organisées par le cadre juridique électoral du pays. Et ce cadre juridique, nous le connaissons tous, quand il n'est pas respecté, on peut parler en ce moment-là des irrégularités qui sont apparues lors du déroulement du scrutin, notamment dans la journée d'hier. Et je voudrais peut-être préciser, parce que j'entends souvent une petite confusion entre irrégularité et fraude. Les fraudes sont forcément des irrégularités, mais toute irrégularité n'est pas nécessairement une fraude comme telle. Alors, mais ça concerne tout ce qui n'est pas fait, qui est fait, mais qui ne correspond pas à ce qui est prescrit par le cadre juridique électoral. Alors, dans ce domaine-là, quand par exemple la loi dit que le scrutin se déroule pendant 11 heures, de 6 heures à 17 heures, c'est déjà une disposition légale qui doit être respectée. À partir du moment où la loi parle de 6 heures, si on commence le scrutin au lieu de 6 heures, on le commence à 6h30, à 7h30, ou 8h, ou 9h, ou l'après-midi, ou à 16h, 17h, ça signifie qu'on s'écarte de ce qui est prescrit par la loi. Et là, nous sommes en présence d'une irrégularité qui peut, selon les cas, être très grave, parce que quand le législateur dit c'est 11 heures de vote, on fait le compte. Vous avez, par exemple, 350 électeurs par bureau de vote. Et si vous avez 11 heures de vote, vous prenez les 660 minutes, vous les divisez par 350 électeurs, vous êtes autour de 2 minutes, plus ou moins 2 minutes de temps de vote par électeur. Et si donc le scrutin commence en retard, ça devient grave parce que ça peut compromettre la participation de tous les citoyens électeurs potentiels aux opérations de vote. Sur ce point-là, on peut saluer par exemple le fait que la CENI a pris la décision d'étaler les scrutins sur 2 journées parce que ça permet de garantir le droit au vote des citoyens congolais. Mais il y a un autre problème plus important qui se pose. À partir du moment où les scrutins commencent très en retard, qui se déroule dans la soirée, parfois même jusque tard dans la nuit, et qui s'étale jusqu'au jour suivant, la difficulté, c'est qu'on n'est plus capable de garantir l'intégrité des opérations qui se déroulent en ce moment-là. Par exemple, quand on vote jusqu'à 1h, 2h du matin, à des endroits où on n'a pas assez d'éclairage, où on a peut-être une lampe qui a été prévue ou quoi, mais ce n'est pas éclairé, où on connaît l'environnement et les comportements d'autres parties prenantes au processus électoral, où l'on sait par exemple que l'homme politique est tenté de vouloir maximiser ses chances par des pratiques contraires à la loi. On ne sait pas ce qu'on crée par la suite et on ne peut pas dire que les scrutins se sont déroulés complètement d'une manière transparente et intègre. Ça, c'est des questions qui surgissent quand vous prenez le risque, comme la CENI l'a fait, de maintenir la date du 20 décembre, tout en sachant pertinemment bien qu'elle n'était pas prête sur le plan logistique. Et donc, nous sommes arrivés à la situation qu'on est en train de traverser maintenant.
Alors, ces irrégularités, à votre avis, ne peuvent pas donner lieu à des contestations?
Alors, de toutes les façons, ça va être exploité d'une manière ou d'une autre par les acteurs, les parties prenantes, surtout par les candidats. Et de quelle manière ça va être exploité par ces derniers, je ne peux pas le dire pour le moment. Quel est l'impact de ces irrégularités sur les scrutins? On ne peut pas le dire pour le moment. Il faut voir comment ça se déroule jusqu'à la fin. Vous avez parlé tout à l'heure là du Sankuru. Tenez par exemple, à Lodja, au deuxième jour des scrutins, c'est autour de 17 heures que les citoyens ont commencé à voter dans certains bureaux de vote. Et il y a des endroits dans ces bureaux de vote où vous n'avez pas d'agents de la police, où les membres des bureaux de vote et les observateurs sont parfois séquestrés par des jeunes partisans des partis politiques et ils sont dans une situation d'insécurité. Et c'est pendant, dans ce contexte-là que les scrutins sont en train de se dérouler. Qui peut garantir que ça va se dérouler dans les bonnes conditions? C'est des questions très importantes et je ne sais pas si la CENI y a pensé.
Voilà. Et selon vous, qu'est-ce que la CENI aurait dû faire, n'est-ce pas, en amont pour éviter ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui?
À partir du moment où la CENI était consciente des défis logistiques qui étaient en face du processus, à partir du moment où elle a écrit au président de la République, elle a sollicité des aides supplémentaires pour pouvoir déployer les matériels, à mon humble avis, la CENI aurait dû décider de décaler de quelques jours ou même de quelques semaines les scrutins pour permettre de maximiser les chances du déploiement du matériel à tous les niveaux. N'ayant pas pris cette décision, peut-être pour des raisons de pression politique, mais peut-être aussi pour des raisons de la conformité de la date à certains numéros de candidats ou je ne sais pas quoi, c'est juste vraiment des hypothèses, là, la CENI avait pris le risque d'engager le processus dans des conditions qui ne sont pas optimales et nous sommes en train de vivre les conséquences. Je ne veux pas dire que tout s'est mal passé. Je suis juste en train de souligner qu'il y a des choses qu'on aurait pu éviter si on avait pris la décision courageuse de retarder de quelques jours l'organisation des scrutins.
Alors, face à cette situation, deux tendances se dégagent. Il y a une opinion qui minimise ce qui s'est passé en estimant que les dysfonctionnements constatés n'est pas susceptible d'entacher la crédibilité de ces processus, pendant que une autre opinion qualifie ces élections de chaotiques, de vastes blagues et pense qu'elles doivent être, n'est-ce pas, annulées. À votre avis, comment peut-on départager ces deux tendances?
À mon humble avis, les deux opinions sont erronées. On ne peut pas prendre des positions péremptoires sur un processus qui est en cours sans avoir exactement évalué, sans avoir évalué exactement le poids des incidents sur le processus comme tel. On ne peut pas dire aujourd'hui que les incidents n'auront pas d'impact sur le processus. Ce n'est pas certain parce que celui qui l'a dit n'a pas pris le temps de prendre connaissance de tous les incidents au niveau national pour pouvoir en juger le poids. On ne peut pas non plus dire que le processus est chaotique parce que j'étais en train de lire certains rapports des missions d'observation. On voit quand même qu'il y a des choses très positives qui ont été faites par la CENI et si on dit que c'est chaotique, on a tendance à porter un jugement global, péremptoire, qui ne correspond pas forcément aux faits.
Merci. Monsieur Joseph Senda, est-ce que vous pouvez réagir rapidement, n'est-ce pas, aux analyses faites par Monsieur Alain Joseph Lumanja et Maître Francis Biassoa Mwanza de la CIMOCEL, hein? Alain Lumanja vient de dire que la CENI, face aux difficultés logistiques, aurait dû décaler de quelques jours la tenue de ces élections. Est-ce que il a raison? Est-ce que la CENI avait le pouvoir de les faire? Et si elle avait le pouvoir de les faire, pourquoi elle n'a pas tenté de les faire?
Les élections ont lieu. On ne peut plus y revenir. Comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est l'œil des autres. Nous attendons ce que les autres ont vu, notamment les missions d'observation. C'est ce qui est important. Les élections ont lieu. On ne peut plus dire, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Je crois que on ne peut pas le faire. Je me réjouis énormément de tout ce que je viens d'entendre de la part aussi bien de monsieur Alain Joseph.
Oui, Alain Joseph Lumanja.
Oui, Alain Joseph Lumanja et aussi de la part de CIMOCEL, je crois.
Si oui, Francis Biassoa, oui.
Francis Biassoa. Je dois avouer que ce sont des observations qui me font énormément plaisir. Personnellement, ça me fait énormément plaisir d'entendre les gens parler de manière tout à fait objective, avancer ce qui a été bon, dire ce qui a été mauvais. Je crois que c'est tout ce que nous attendons en ce moment. Comme je le disais, ce que nous attendons, ce sont les rapports des différentes missions d'observation. C'est notamment les réflexions des personnalités scientifiques indépendantes, comme nous venons de l'entendre de la part de M. Alain Joseph. C'est de ça dont nous avons besoin. À cela, nous allons ajouter notre propre évaluation. Comme je l'ai dit, nous avons la tradition de faire toujours un atelier d'évaluation où nous mettons d'un côté les points forts et de l'autre le point faible assorti de recommandations. Ça se fait depuis 2006. Nous le ferons aussi à cette occasion. Donc, maintenant, c'est un peu comme qui dirait, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est la transmission des résultats. Aujourd'hui, c'est la compilation des résultats. Aujourd'hui, c'est les résultats provisoires. C'est le suivi des contentieux. C'est le résultat définitif et d'autres choses, d'autres activités alignées dans notre calendrier. Il ne faut pas oublier qu'il nous reste ce que je peux appeler deux scrutins directs, c'est-à-dire les municipales à travers le pays ainsi que le local. Ce sont des scrutins dits directs. Et puis, il y a les indirects, l'élection des sénateurs, des gouverneurs, des maires, etc. C'est à ça que nous regardons. Donc, par rapport à ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, c'est plus l'aide des autres qui nous importe. C'est plus la prestation des autres qui nous importe et notre évaluation interne afin de pouvoir nous projeter dans l'avenir.
Oui, monsieur. Voilà ce que... Monsieur Joseph Senda, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu, c'est Patrice Mudewa.
Patrice Mudewa Kulimushi, j'appelle depuis la ville de Bukavu au sud de Kivu. Au regard de toutes les irrégularités qui ont caractérisé les élections du heure et qui continuent de se dérouler maintenant même, afin de préserver notre démocratie, ces élections devraient être annulées et réorganiser de nouvelles élections afin de donner la possibilité à tout citoyen congolais de se choisir en toute transparence un candidat de son choix. Je me demande pourquoi la CENI n'avait pas demandé le report d'au moins une semaine de ces élections. Il est temps pour elle de déployer le matériel dans tous les centres de vote, car le plus grand défi était le retard dans le déploiement du matériel dans les centres de vote. Les machines qui étaient toujours en panne, la difficulté pour les électeurs de retrouver leur nom sur les listes électorales. Je pense que rien n'est fait à planifier pour l'échec.
Monsieur Joseph Senda.
Bon, écoutez, lorsque nous parlons de rapport d'émission, nous pensons à quoi? Nous pensons notamment à l'échantillonnage. Nous pensons que les missions d'observation vont nous présenter l'échantillon. C'est à partir de l'échantillon qu'on extrapole. Le compatriote a vu ou nous parle de ce qu'il a vu autour de lui. On ne peut pas, sur base de ce que lui a dit, extrapoler. Voilà pourquoi nous insistons sur les missions d'observation, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'échantillon et l'échantillonnage. C'est ce qui nous intéresse le plus. Est-ce que l'échantillon représentatif, est-ce statistiquement un échantillon pour que nous soyons en mesure d'extrapoler ce qu'on a observé? Voilà ce que nous attendons. Le reste, bon, qu'est-ce que je peux dire? Quand quelqu'un dit que chez nous ça se passe comme ça, un autre à Maluka dira autre chose, un autre à Kasumbalé ça dira autre chose, un autre à Zongo dira autre chose, bon, on ne sait rien faire. Mais un échantillon qui sortirait d'une mission d'observation, qui aura déployé des observateurs, voilà ce qui est important pour nous.
Mais il faut aussi savoir que vous êtes là, hein. C'est la CENI qui organise, donc vous avez des agents sur terrain, avant que les missions d'observation puissent, n'est-ce pas, envoyer le rapport.
Ils ne peuvent pas être jugés partis, ils sont CENI, ils peuvent laisser les autres nous juger. Nous allons faire notre évaluation interne.
Voilà, et au moment où nous parlons, M. Josenda, est-ce que tous les bureaux de vote à travers les pays ont reçu les machines? Est-ce qu'on peut dire que les votes se déroulent dans tous les bureaux où il n'y a pas eu vote hier?
Bon, on fera un rapport pour savoir s'il y a eu des bureaux qui n'ont pas reçu de machines.
Non, vous avez, je l'ai encore rappelé ici, hein, vous avez des agents dans ces bureaux qui et vous êtes censé être en contact avec ces agents-là. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir la situation sur le terrain? Est-ce que tous les bureaux ont réceptionné des machines? Est-ce que tout le monde est en train de voter aujourd'hui, ceux qui sont dans les bureaux de vote?
Je vais vous donner deux exemples que je connais. Lorsque vous quittez le chef-lieu de territoire de Papouasinde, que vous allez vers Opieng, dès que vous avez dépassé une certaine distance, vous êtes perdu. On ne peut rien savoir de ce que vous faites. Ça, c'est un des deux. Lorsque vous êtes dans la cité d'Oshoué, vous traversez la Lukeni, vous augmentez vers Bisengibatoa, vous êtes perdu. On ne peut pas savoir ce que vous faites. Donc, il y a des points comme ça où il faut attendre que les gens sortent de ces trous-là pour nous dire ce qui se passe là-bas. Je cite deux exemples seulement. Donc, nous qui sommes en ville, on croit que c'est derrière la maison. Je vous lis des exemples. Bafoussende, Oshoué, Dekessé, ce sont des trous noirs. Bokungu, ce sont des trous noirs. Il faut que ceux qui sont partis ressortent ou alors cherchent un endroit où il y a une communication pour vous transmettre les informations. Voilà pourquoi nous disons nous y allons calmément. On ne peut pas aller par anticipation, avancer des chiffres, peut-être pour se satisfaire de bonne conscience. Nous sommes sereins, nous sommes calmes, nous attendons que toutes les informations nous remontent pour que nous ayons une idée du tableau de scrutin qui vient de se passer.
Oui, et le fait d'avoir, n'est-ce pas, prolongé pour aujourd'hui. Vous avez suivi Alain-Joseph Lomanja qui exprime certaines craintes hein, que cela peut poser un problème sur l'intégrité, n'est-ce pas, du vote.
Bon, c'est une belle analyse, comme nous l'avions dit. Nous verrons dans quelle mesure ça va impacter. Lui-même a bien dit, il a bien dit qu'on ne peut pas, sur base d'une poignée d'informations, pour dire c'est chaotique, on ne peut pas non plus. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit, et par partant de ce qu'il a dit, nous attendons impatiemment que tout remonte pour que nous voyons effectivement dans quelle mesure les points forts auront été plus nombreux que les points faibles, ou l'inverse.
Merci.
C'est à l'évaluation que nous le saurons.
Merci, Maître Francis Biasso Mwanza. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga, c'est Dieudonné.
Dieudonné Bangé fils, hein. J'interviens depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. En ce que je sache, même dans les vieilles démocraties, les élections ont été toujours entachées de petites irrégularités, d'autant plus que l'œuvre humaine ne manque jamais des imperfections. Mais en rapport avec les scrutins d'hier, dans notre pays, il faut ici admettre que si d'un côté, une opinion est satisfaite de la tenue de ces élections dans les délais requis par la loi, l'on note cependant que de l'autre côté, une autre opinion est plus que déçue du théâtre vécu hier dans les bureaux de vote, car les irrégularités ont été majeures. En tant que libre analyste, j'ai comme l'impression que la CENI a failli à sa mission en dépit de la somme colossale mise à sa disposition. Et je pense que si M. Kadima, dernier expert en matière électorale de son État, était sincère avec lui-même, il aurait dû solliciter même un report d'un ou deux mois, question de nous organiser des élections XXL à la hauteur de ces grands Congos. Car si nous qui sommes dans la deuxième ville du pays avons fait des gymnastiques pour accomplir ces droits nous garantis par la Constitution, mais à combien plus forte raison nos compatriotes qui sont dans les grands, dans le Congo profond. Les élections, oui, mais si certains Congolais n'ont pas voté, c'est que ce n'est pas une élection.
Maître Francis.
Oui, je dois réagir à la question de M. Dieudonné. Alors, je commence par souligner quelque chose, ou soit préciser quelque chose. Vous savez, l'être humain est par nature imparfait. Nous ne pouvons pas attendre d'un être humain qui est au départ déjà imparfait, une œuvre parfaite. Que ça soit partout dans le monde, on n'a jamais eu des élections parfaites. Mais par contre, la succession des cycles électoraux nous permet à consolider l'expertise. Alors, là, il n'est plus question de parler d'une quelconque mesure, des reports, solliciter les reports, parce que nous sommes déjà dans les élections. Donc, les élections ont eu lieu. Et continue encore à avoir lieu dans d'autres coins du pays. Alors, quelle attitude prendre? Nous, en tant qu'émission d'observation, on se contente des données que nous, donc, des données que nous avons, des faits que nous avons observés. On évalue, on traite, on relève les questions majeures et on fait des propositions. Et ce sont ces propositions qui vont permettre à l'organe de gestion électorale de savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est en cela qu'on donne une contribution à l'amélioration du climat électoral dans l'avenir. Donc jusque-là, nous nous contentons, nous continuons encore à travailler parce que sur le terrain, il y a les observateurs qui sont déployés. C'est à chaque minute qu'il y a modification d'informations parce que nous sommes connectés, nous attendons et nous continuons toujours à communiquer avec les autorités compétentes, notamment la CENI. Nous saluons la collaboration de la CENI jusqu'à ce stade, parce qu'à chaque fois que nous avons des cas de difficulté, on appelle, on communique. Dans la mesure du possible, on a quand même un équilibre en termes de réaction. Ça nous permet d'avancer dans ce sens. Donc, on est là pour aider à ce que, non seulement pour ces cycles, mais ces servants de ce que nous avons observé, qu'est-ce qui peut être aménagé ou amélioré dans le futur.
Merci Alain Joseph Lomandja. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle, je pense, depuis Arou, si je ne m'abuse, hein, c'est Flori. Mais c'est Flori. Ah, depuis Kisangani, voilà.
C'est Maître Dodet Toela Tokinda depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Pour moi, cette élection est très particulière, cela pour plusieurs raisons. D'abord, le contexte dans lequel elle se déroule reste complexe, vu que le respect de la date du 20 décembre n'était pas partagé par les opposants congolais, qui ne giraient que pour l'échec du président en exercice. Ensuite, cette élection est la toute première à prendre en compte la diaspora, bien que cela dans 5 pays seulement, ainsi que l'effectivité de l'élection municipale, bien que partiellement. Enfin, les multiples difficultés d'ordre financier et logistique auxquelles le gouvernement et la CENI ont été butés. Pour le gouvernement, beaucoup de moyens ont été affectés à la guerre de l'Est, au programme du développement local des 145 territoires, ainsi qu'aux nouvelles mécanisations visant la lutte contre les phénomènes non payés au sein de l'administration des fonctions publiques congolaises. Donc, beaucoup sont ceux qui reconnaissent les multiples failles logistiques et organisationnelles qui ont émaillé la présente élection, lesquelles sont justifiées. Mais malgré ça, nous devons plus féliciter les forces très particulières de cette élection que de trop voir les faiblesses pour lesquelles il nous faut plutôt tirer les leçons.
Alain-Joseph Lomandja.
Oui, je comprends parfaitement le propos de l'auditeur qui est conscient des défis, d'énormes défis auquel le processus électoral est confronté jusqu'à présent. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de refaire les mêmes erreurs après autant de cycles électoraux et nous dire que l'œuvre humaine est imparfaite, toujours imparfaite. Non. Après autant de cycles électoraux, nous sommes censés tirer les leçons de ce que nous avons vécu par le passé et nous sommes censés progresser. Moi, par exemple, quand la CENI avait maintenu la date du 20 décembre, je me disais, nous allons revivre les élections du 28 novembre 2011. Parce que je voyais, ces jours-là, on continuait à déployer le matériel électoral sensible les jours des scrutins. Et c'est un peu ce qu'on a vécu dans certains aspects, bien que chaque cycle électoral a ses spécificités, mais on a vécu presque la même chose. Est-ce que nous allons refaire les mêmes erreurs et nous dire que nous sommes, que l'œuvre humaine est imparfaite? Je pense que ce n'est pas le meilleur argument. Ce que nous avons vécu aurait pu être évité si on s'était accordé même une semaine pour déployer efficacement le matériel électoral. Et sur ce point-là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la CENI a tenu à cette date. Bon, j'ai écouté un des vice-présidents de la CENI qui disait sur Top Congo que c'est pour des raisons, parce que les opposants n'étaient pas d'accord, parce que les gens ont dit qu'on ne peut pas dépasser les délais constitutionnels, mais la date du 20 décembre n'a rien de constitutionnel. Et le mandat actuel du président de la République, il court jusqu'au 23 janvier, donc on aurait pu profiter de ce temps et organiser les élections dans les meilleures conditions.
Oui, nous sommes à la phase, n'est-ce pas, de conclusion. Alain-Joseph Lomandja, je rappelle que vous êtes analyste des questions électorales et docteur en éthique et sociale. On est dans ces processus qu'il faut gérer avec tout ce qui a été constaté sur le terrain et tout ce qui s'est dit. Et à votre avis, que faut-il pour que ces processus atterrissent en douceur?
Je pense pour ma part qu'il y a encore des défis importants, notamment en ce qui concerne les opérations qui vont suivre les opérations de vote, notamment le travail de CLCR qui doit être un travail transparent, et j'espère que l'actuelle CENI va respecter ce travail-là, parce que j'ai entendu aujourd'hui qu'on va commencer la proclamation des résultats à partir, disons, ou l'annonce des résultats ou des tendances des résultats à partir de demain. Mais j'espère quand même qu'on va suivre toutes les procédures telles que prévues par la loi électorale et par les mesures d'application de la loi électorale. C'est pour moi la meilleure manière de faire accepter les résultats des scrutins, même si je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de contestations.
Maître Francis Biassoa Mwanza, analyste au sein de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL en sigle. Et vous également, qu'est faut-il pour que ce processus atterrisse en douceur?
Prenant en compte les avis des uns et des autres, il se dégage des tendances. Il y a ceux qui pensent que les choses n'ont pas été bien faites. Il y a ceux qui pensent qu'il y a des choses à refaire, notamment pour permettre à ce que le processus puisse atterrir en douceur. Nous nous demandons à la CENI de continuer à communiquer de façon stratégique avec les parties prenantes sur la suite du processus électoral afin d'apaiser les esprits. Pour le moment, c'est la communication de la CENI et une communication stratégique qui est importante pour maintenir le climat et aller avec le processus jusqu'à la fin.
Merci Joseph Senda, directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Et vous, comment vous entrevoyez la suite de ces processus? Vous dites, vous les répétez, n'est-ce pas, que vous attendez les rapports des différentes missions d'observation sur le terrain. Et si ces rapports sont, disons, négatifs, quels sont les scénarios possibles? Est-ce que la CENI peut aller jusque comment les souhaitent certains opposants, aller jusque à recommander l'annulation des résultats de ces élections?
Bon, merci beaucoup pour la question. Je ne cesse de répéter que ce qui nous importe pour le moment, c'est nous concentrer sur la gestion de la remontée des résultats à partir des différents bureaux de vote, parce que nous sommes déjà dans le processus de compilation en vue des résultats provisoires, c'est ce qui importe le plus. Nous avions dit qu'ensuite viendra la période des contentieux et enfin la publication des résultats définitifs. Je pense, je ne suis pas expert en la matière, c'est peut-être les orientations de la Cour constitutionnelle. Je dis avec beaucoup de réserve, je ne suis pas expert en la matière. Nous allons tous suivre comment est-ce que les uns et les autres vont présenter le problème au niveau des contentieux. Pour la CENI, elle est consciente du travail qu'elle a fait. Vous avez suivi le VP2, enfin le deuxième vice-président. Il n'y a pas de raison que l'on passe à une annulation. Les observateurs sont avec nous, mais je crois que, à vrai dire, les rapports d'observation n'ont pas force de loi. C'est pour ça que je dis cela. Elles sont importantes, les observations, mais à la fin de fin, c'est les juridictions compétentes selon la loi appelé à prononcer les résultats définitifs, dont le point de vue est plus important que le point de vue des missions d'observation. Je pense, à moins que quelqu'un ait une autre perception, parce qu'en fait, on n'est pas expert en tout, mais nous avons besoin de l'œil extérieur qui viendrait des missions d'observation, c'est très important pour nous, mais au même moment, nous avons les juridictions, de par la loi, qui ont le pouvoir de proclamer les résultats définitifs, qui ont le pouvoir de nous orienter dans un sens ou dans l'autre. À ce stade, on ne peut rien dire parce que nous ne savons pas sur quoi portera ou porteront les différents contentieux. Nous ne savons rien du tout qu'est-ce qu'on va dire, quelle est l'ampleur des dégâts. Nous ne savons absolument rien du tout. On a parlé des incidents, quelle année la portée. On ne sait rien du tout. Donc, on ne peut rien dire à ce stade avant que et les uns et les autres ne portent leurs problèmes devant la Cour constitutionnelle pour les députés nationaux et la présidentielle, devant les autres juridictions, pour les autres scrutins de façon provinciale et communaux et communales. Donc, nous nous attendons, mais pour nous, nous allons proclamer les résultats provisoires au regard des résultats qui vont nous parvenir et nous transmettrons le tout aux juridictions pour la suite à la poursuite du processus, si vous voulez bien.
Voilà, on a suivi ici Alain-Joseph Lomandja qui nous a dit qu'on pourrait commencer à publier les premières tendances demain, donc vendredi. Est-ce que vous confirmez cette information? Et si vous la confirmez, on sait qu'il y a des bureaux qui continuent où on continue à voter aujourd'hui. Et vous êtes certain que demain vous aurez déjà, n'est-ce pas, tous les résultats consolidés qui pourrait vous permettre à commencer à publier les premières tendances?
Celui qui l'a dit, c'est mon chef. C'est le VP2, c'est le deuxième vice-président de la CENI, la troisième personnalité de la CENI. Celui qui a dit, moi je l'ai suivi sous ton Congo. Comment est-ce que je peux dire que je confirme ou pas? Mais non, mon cher Guy. Hein? c'est mon chef, c'est la troisième personnalité, donc le président, le président, le deuxième président.
Vous, en tant que technicien, vous pensez que demain, vous aurez déjà consolidé tous les résultats et donc commencer à publier les premières tendances?
Non.
Vous êtes technicien, n'est-ce pas?
Il a plus d'informations que moi, et il a plus d'autorité que moi. Il a plus d'autorité que moi. Ce qu'il dit, c'est pas pour faire plaisir, ça engage toute l'institution.
Merci. Merci beaucoup, okay. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à Joseph Senda, à monsieur, à maître Francis Biassoa Mwanza et à Alain Joseph Lomadja qui ont accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu joindre monsieur Cyril et Botoko. Merci également à Kelly Nkouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission. Également, Pierre Diassinois et Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation de Jonathan Fouanani, Clément Chimanga et Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Okapi.